Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Et ce matin, c'est l'acteur rocker Jean-Pierre Calfon qui fait le réveil culturel à l'occasion de la sortie de ses mémoires aux éditions de l'Archipel. Tout va bien, man, c'est le titre du livre. Jean-Pierre Calfon est en forme. Bonjour Jean-Pierre Calfon.
Bonjour Toufik.
Eh ben après tout, vous n'avez que 4 fois 20 ans.
Mais exactement, je suis un bébé, quoi.
À la coordination, Corinne Amar, à la prise de son, Manu Couturier, à la réalisation, Vincent Abouchard. Le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio, quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne, ou mieux, l'abonnement au podcast, disponible entre autres à la page de l'émission sur franceculture.fr.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Alors ça s'appelle « Tout va bien, man » parce que les mémoires de Jean-Pierre Calfon sont destinées à ses parents qui ne sont pas là, à sa mère, à son père, à sa sœur.
Elles sont destinées au lecteur. Je parle, mais c'est vrai, à travers tout ça, je parle à mes parents du mal que je leur ai fait, comment j'ai pas pu m'attraper vraiment, mais comment j'essaye de faire de mon mieux maintenant, après toute une vie de n'importe quoi, on pourrait dire.
Et pourtant, cette fugue a été fondamentale dans votre vie. Alors, je rappelle un peu, hein, vous aimez la musique, vos parents ne voient pas ça d'un bon œil, ni d'une bonne oreille, puisque tous les soirs, vous venez avec un nouvel instrument. Alors, vous décidez, à l'âge de 16 ans, de faire une fugue.
15 ans, oui, ouais. Oui. Et là, oui, vous comprenez, on voulait me faire des études, que je devienne avocat ou vinaigrette. Non, pas avocat ou médecin, mais moi j'avais pas de disposition pour ça. Mes parents avaient le certificat d'études. Quand je venais avec mes devoirs, on pouvait pas vraiment m'aider. J'étais tout seul au milieu de ce truc-là.
Mais c'était l'après-guerre, Jean-Pierre Calfon. On peut les comprendre, vos parents.
Mais je les comprends parfaitement. Mais je les ai compris après. Je les comprenais même sur le moment. Seulement, moi, il fallait qu'ils me comprennent aussi. C'est ça. Comme ils me comprenaient pas, ils me prenaient pour un bébé. Et moi, je me prenais déjà pour un grand. Eh bien, je me suis pris pour un grand. Je me suis pris par la main. Puis je me suis barré. Voilà, c'est ça. Et alors évidemment, ça leur a fait beaucoup de mal. Et j'ai ensuite essayé de me rattraper, mais c'était pas très facile.
Quand vous vous êtes barré, comme vous dites, Jean-Pierre Calfon, vous avez vraiment vécu la vie des vagabonds parisiens de l'époque.
Les vagabonds parisiens qui devenaient bruxellois, parce que j'ai mis une frontière entre mes parents et moi. J'ai réussi à passer la frontière en frontalier. J'avais pas de papier assez important. J'avais une fausse carte d'identité d'étudiant, même pas une carte d'identité, carte d'étudiant. Donc j'ai passé la frontière comme un frontalier et je me suis retrouvé en Belgique parce que tous les copains de Saint-Germain-des-Prés m'avaient dit qu'il fallait aller sur la Grand Place dans un endroit qui s'appelle la Cave et que je retrouverais des gens un petit peu comme ceux, vous savez, c'est presque les beatniks, quoi, la suite des beatniks. C'est un peu retrouver Saint-Germain-des-Prés, en fait, les existentialistes et tout ça, quoi, dont je faisais pas vraiment partie, parce que j'y connaissais rien. Mais en tous les cas, le besoin de liberté. Donc, ce besoin de liberté, je savais que c'était là que je pouvais le trouver, dans cet endroit qui était une cave, qui s'appelait d'ailleurs la cave, avec beaucoup d'imagination.
Voilà. Et vous avez tout essayé. En lisant vos mémoires, Jean-Pierre Calfon, vous avez vécu toutes les galères qu'on pouvait vivre à cette époque. Hein.
Pas seulement les galères, les plaisirs aussi.
Ouais. Et les expérimentations.
Mais c'est ça.
Les expériences que vous avez eues.
Je me suis dit quand même quelque chose. C'est, je suis jeune, j'ai la force de la jeunesse. C'est pas qu'en vieillissant que je vais me lancer dans un truc comme ça. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, tant que j'ai la force de résister. Et ça passe ou ça casse. C'est passé. Beaucoup de mes copains maintenant sont partis. Moi, je suis toujours là. Je suis un survivant, un survivor.
Ceci dit, vous avez survécu en faisant quelques petits larcins, en passant par la case prison, Jean-Pierre Calfon. Vous avez même essayé d'être gigolo. Mais ça n'a pas marché, ça.
J'ai pas vraiment essayé. On m'a poussé à ça. J'avais un copain qui était beaucoup plus vieux que moi, qui lui aurait aimé être gigolo. Il essayait de me placer. Mais je n'étais pas très disposé pour ça, non. J'étais un peu, comment dire, j'étais un peu trop pris par mon désir avec les femmes qui m'étaient interdites chez mes parents, quoi. Ma mère était très stricte, pas le droit de voir des filles et tout. Elle devait avoir peur que je mette une fille enceinte, en fait. C'était ça, l'histoire, hein. Je sais pas si elle était plus prude qu'une autre ou quoi, mais en tous les cas, voilà, c'est ça. Et moi, j'avais envie de connaître les choses et je me suis laissé embarquer, par, à droite, à gauche, par des hommes, par des femmes, pour m'émanciper, quoi.
Et les petits larcins?
Oui, les petits larcins, mais pas grand chose. C'est pas bien méchant. Vous savez, quand on est jeune, on a besoin d'avoir un peu de sous. Donc, on trouve, mais j'ai aussi travaillé pour ça. J'ai chargé et déchargé des camions. J'ai vendu, en Belgique, j'ai vendu des espèces de revues qu'on m'emmenait dans les banlieues. Pour vendre, j'ai fait des dessins à la par terre, j'étais un mauvais voleur de toute façon, j'étais pas doué pour être voyou, je me suis fait pincer, donc j'ai terminé dans un centre de délinquance en France, hein, à Savigny-sur-Orge.
Vous avez fait de bonnes rencontres, apparemment.
Beaucoup, heureusement pour moi, et beaucoup de gens m'ont tendu la main, on ne sait pas pourquoi, vous savez, les rencontres, c'est un peu, comment dire, c'est au hasard des choses, comme ça, et c'est... Je sais pas, c'est peut-être ce qu'on dégage, est-ce que les autres dégagent, comment on arrive à se connecter, quoi.
Et cette expérience de la prison, ça vous a aidé ensuite au cinéma quand vous avez, quand on vous proposait d'incarner des malfrats, des voyous ou non. Des flics tordus?
Non, ça m'a pas spécialement aidé. Ça m'a aidé à ne pas y retourner surtout. Ça m'a, parce qu'une fois, quand on commence, vous savez. Je suis parti de chez mes parents, j'ai fugué pendant 3-4 mois, j'ai vécu une vie totalement libre, totalement libérée et tout. Puis d'un seul coup, du jour au lendemain, paf, je me suis fait choper et on me met à Blankenberg d'abord dans une espèce de KGB avant de m'emmener à la prison à Bruges. Et d'un seul coup, après avoir connu toute cette liberté, se retrouver entre quatre murs et à 15 ans et demi... très marqué par ça quand même, et on vous casse, quoi, vous êtes d'un seul coup cassé et ramené à une réalité qui est pas celle que vous cherchiez, mais en même temps ça a été très bénéfique, parce que qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que je serais devenu sans ça, si j'avais pas été chopé, oui, j'aurais fini clochard, j'aurais fini quoi, oui, non, ce qui est, ça a été surtout, ça m'a vacciné, je me suis dit bon ben maintenant c'est trop dur de ce truc là je suis pas fait pour ça, il va falloir que je trouve un autre chemin. Voilà.
Bon, eh ben, je vais faire le malfrat, mais pour le cinéma. Non, mais entre-temps, avant d'arriver au cinéma,
aussi,
Jean-Pierre,
oui.
Jean-Pierre Calfaut, racontez-nous comment vous vous retrouvez aux Folies Bergères dans le rôle d'un danseur. J'ai du mal à imaginer cette image de Jean-Pierre Calfaut aux Folies Bergères.
Ah, mais il y a même une photo, mais je ne l'ai pas, cette photo, mais il faudrait retrouver ça dans Jour de France. Ils avaient fait monter une Simca 1000 ou quelque chose comme ça, une grosse voiture, une frégate, je sais plus, sur la scène des Folies Bergères. Et toute la troupe était là autour, et moi j'étais habillé en boy, smoking jaune, quelque chose comme ça.
Mais comment vous avez atterri là? Comment vous êtes devenu danseur?
Bien, c'est-à-dire que, bon, voilà, c'est bien compliqué, vous savez, après, quand je suis revenu chez mes parents, après les histoires de fugue, après les centres de délinquance, je faisais rien du tout, et mon père m'a dit, mais il faudrait faire quelque chose, quand même, au bout d'un moment, il avait marre de me voir rien faire. J'ai dit, ah, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était bien de décorer les vitrines, et je vais décorer les vitrines. Vous savez, on m'a dit qu'on gagnait de l'argent comme ça. Mais mon père m'a dit, mais oui, d'accord, mais il faut faire des études de décoration pour ça. Et ils m'ont mis dans une école de décoration chez l'atelier de maître de Penningen et Jacques Dandon, qui étaient des gens fabuleux, qui m'ont appris beaucoup de choses sur la musique, sur la peinture, sur le dessin, sur et puis là on était j'étais avec des garçons, avec des filles et tout ça, on était d'un seul coup, il y avait une certaine liberté comme ça, et j'ai passé un concours, j'ai gagné un concours d'affiches sur toutes les ateliers de Paris, et puis après et j'ai passé un concours pour l'école des métiers d'art qui n'existe plus, c'est le musée Picasso maintenant rue de Torigny, et j'ai réussi ce concours, et puis au bout de 3 mois je me suis fait virer de cet endroit parce que j'ai fait n'importe quoi encore, mais entre temps j'avais suivi un garçon qui prenait des cours de théâtre, j'avais jamais pensé à faire ça, moi j'avais pas d'argent, je venais là en auditeur et je regardais, puis j'ai découvert des gens en train de dire des poèmes, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, de passer des scènes, dizaines de Molière, de Racine, tout ça, et tout ce qui ne m'avait pas intéressé au lycée, d'un seul coup je le retrouvais là, mais bien pris en main par des gens jeunes comme moi, quoi, même plus vieux que moi. Et dans ce cours, où je venais de temps en temps, puisque je n'avais pas le droit d'y travailler, mais je venais voir, il y a un monsieur qui est venu chercher des comédiens pour jouer dans la pièce qui montait où il y avait des danseurs. Et je l'ai suivi, on a monté cette pièce, moi j'ai joué dedans, et puis je l'ai suivi, et j'ai pris des cours de danse avec lui pendant un an, parce que je trouvais que c'était plus intéressant de faire des cours de danse que d'aller dans un club de sport. Et là, au bout d'un an et quelques, où j'avais pris un peu des cours de danse, j'ai entendu parler qu'il y avait besoin de danseurs au Folies Bergères, j'y ai été, j'ai passé une audition, et j'ai été pris, on me fait répéter l'après-midi, on me fait voir le show déjà un soir, le lendemain je répète avec un répétiteur juste et un pianiste, je répète les trucs, et boum, le soir on me lance sur la scène, et bon, c'était un peu n'importe quoi les premiers temps, hein. Je peux vous dire que je me suis retrouvé tout seul avec la présentatrice quand le décor était tombé, que je l'ai pris sur la tête, je me suis échappé par devant, ouais, parce qu'on vous balance comme ça, quoi. Et puis petit à petit, je m'y suis fait, et je suis resté 5 mois là, et c'était mon premier argent sur scène, quoi. Et grâce à cet argent, j'ai pu me payer des cours de théâtre au cours du Linde, où, à l'époque de Jean Villard, ou George Wilson, Alain Cuny, Jean-Pierre Darras, enfin vraiment des grands comédiens, des grands...
Et grâce à ces premiers cachets des Folies Bergères, vous avez aussi pu acheter des instruments de musique, puisque ce rêve d'enfant, Jean-Pierre Calfon, ce rêve d'enfant d'être chanteur, musicien, il vous a toujours accompagné, non ?
Il m'a toujours accompagné, mais c'est plus tard que j'ai pu acheter des instruments, parce que, vous savez, avec ce que je gagnais aux Folies Bergères, j'avais pas de quoi acheter, il fallait déjà vivre, il fallait... j'avais une amie, il fallait qu'on paye un loyer, tout ça, donc c'était un peu compliqué. C'est beaucoup plus tard, c'est quand j'ai fait mes premiers films, et que j'ai gagné un peu plus d'argent, que j'ai pu me loger dans des maisons... dans des appartements assez grands, ou même après dans une maison. J'ai acheté d'abord une batterie, et après une guitare, et puis j'ai commencé à jouer avec des gens et tout, parce que ça me titillait depuis le début, oui, c'est ça que j'aurais eu envie de faire.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Pané, pané, je ne suis pas né paumé dans la rue, pas venu chez moi non plus. Malin, pas pris dans la panique, bébé béton dans une clinique. Père importé et mère papiste, planté côté colonialiste. J'étais fait pour cette bande de rock'n'roll, la malle. Gypsy, la rock'n'roll band. L'école, la colle, je décolle pas triste, me mettre chiffon chez les artistes. Courir, voler, les tomber toutes, une embellie et je prends la route. Jamais parti de rien, arrivé concerné par tout. Je déguste mais je n'achète pas tout. Dans ce flux chip, c'est rock'n'roll band. Piégé dans une peau qui me survolte à contre-temps. On rame pour me débarquer, je pagaille pour pas me faire larguer. J'en crève de te crier, je t'aime, je développe pour pas déraper. Aligne-toi, rejoins cette bande de rock'n'roll, nama de gypsy, rock'n'roll band. Avant ma naissance, une guerre braquait la race de mon père. Ma mère gauloise se planquait comme mon père et me planquait. Fuir l'embrouille, j'ai ça dans le sang, la parano c'est le contre-champ. Je n'en veux plus de ce bleu, injecte-moi du funky, j'ai fait rock'n'roll.
Mais vous êtes un rockeur, Jean-Pierre Calfon. Là, on vous écoute et on sent bien que c'est votre terrain, le rock. Hein.
Et encore, j'ai réarrangé cette chanson. J'ai écrit des paroles qui sont beaucoup mieux que celle-ci et je le chante beaucoup mieux. Avec là, c'était déjà, les musiciens étaient formidables. C'était des musiciens anglais. J'étais à Londres pour enregistrer ça. Et maintenant, j'ai un super groupe j'ai changé les paroles et je les chante beaucoup mieux parce que j'ai pris du galon quand même. J'ai pas mal fait de concerts. Je travaille chez moi sur des playbacks.
C'est là où vous êtes le plus heureux, vous qui avez tourné sous la direction de Rivette, de Chabrol, de Godard, de Truffaut, de Garrel.
De Granier de Fer, de Verneuil, de Boissé.
De Romain Gary, vous voulez qu'on continue? On en a jusqu'à midi. Hein.
Non, mais je suis très heureux quand je joue aussi, parce que jouer, c'est jouer. Vous savez, jouer de la musique ou jouer comme acteur, c'est toujours le jeu. Donc c'est quand même tout à fait satisfaisant. J'ai quand même été passionné par le métier d'acteur, vous voyez, parce que une fois que vous rentrez en contact avec des gens, vous rentrez dans leur tête, dans leur cœur. C'est ça aussi être acteur, c'est être un peu vampire de ce que les autres vous apportent, quoi, vous voyez. Et puis essayer de redonner aussi, de leur donner satisfaction, de rendre ce qu'on vous envoie, parce qu'on m'a donné beaucoup. Vous voyez, partant d'où je partais, je pensais que j'allais mourir jeune, moi. Mais comme je dis, je mets du temps à mourir jeune.
Pour vous, le cinéma, c'est important, Jean-Pierre Calfon, ou la scène et le théâtre l'emportent largement?
Peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de bon à défendre. Un rôle au théâtre, au cinéma, à la télé, une chanson, un truc. Ce qui est important, c'est quand les choses, on a envie de s'investir dedans, quoi. Et qu'on sent que ça vous prend aux tripes et que vous avez envie de donner, de partager et d'évoluer, parce que tous ces rôles, toutes ces choses qu'on m'a donné, j'ai quitté le lycée en troisième, j'ai pas fini la troisième, j'ai pu se partir au bout de 3 mois, j'ai aucun diplôme, j'ai rien du tout, donc ce n'est que petit à petit avec les rencontres que j'ai fini par me cultiver, par avoir un peu de culture justement.
Mais vous n'avez jamais eu de plan de carrière, Jean-Pierre Calfon. Quand on lit vos mémoires, hein, Tout va bien ment, aux éditions de l'Archipel, vous prenez le temps de parler de vos amis, de votre amitié, de la bande de la Coupole, c'est-à-dire Philippe Garrel, Jean-Jacques Schul, Francis Giraud, Jean Eustache, mais surtout Pierre Clémenti. Vous prenez le temps de raconter vos 400 coups quand vous étiez tout jeune, adolescent, ou toutes ces nuits passées dans les boîtes, parce que vous avez tout fait, hein, toutes les boîtes de nuit, tous les mondes aussi différents qu'interlope de la nuit parisienne, vous les avez testés avec toutes les substances qui vont avec.
Oui, oui, j'assume.
Oui, mais on a l'impression que c'est ça qui vous plaît le plus, plutôt que le choix d'un film, parce que vous avez tourné aussi bien dans de très très grands films, Godard, Truffaut,
Walt Disney,
et aussi dans des vrais nanars à la télévision ou au cinéma.
Oui, aussi, oui. Oui, mais vous savez, ce qui est important, c'est la vie. La vie, et la vie vous apporte des choses. Il faut savoir plonger dedans. Il faut savoir assumer les choses, les prendre, les manger. Je dévore les choses. Vous voyez ce que je dis, et j'essaye de faire partager tout ça et d'évoluer avec tout ça et de donner un peu de tout ce qu'on m'a donné. Voilà, parce qu'on m'a beaucoup donné.
Et en même temps, vous avez beau tourner avec Rivette, Chabrol et même Godard, vous n'êtes pas du tout considéré comme estampillé une nouvelle vague. Vous avez beau faire beaucoup de morceaux de rock'n'roll, d'avoir des groupes comme ce groupe qui s'appelait Rock Show, comme le chocolat chaud. Vous n'êtes pas non plus dans la scène du rock, comme si vous étiez dans les films qui annonçaient mai 68, mais quand on commémore aujourd'hui mai 68, on interviewe tout le monde, sauf vous, alors que vous étiez dans ce film prémonitoire de Marco, qui est Les Idoles.
Il y avait aussi The Weeknd de Godard et Les Gauloises Bleues de Michel Corneau, qui étaient des films qui annonçaient mai 68, oui.
Mais comme si vous, à chaque fois, vous trouviez le moyen, Jean-Pierre Calfon, de ne pas vous laisser emprisonner dans une école, dans une époque, dans un mouvement.
C'est-à-dire que ma révolution, je l'avais fait moi-même en partant de chez mes parents déjà, donc la révolution de mai 68, c'était un truc d'étudiant beaucoup quand même. Après, les ouvriers sont venus s'y mêler, mais au départ, c'est un truc d'étudiant. Et moi, j'ai jamais été étudiant, vous voyez. Donc, je me sentais pas très concerné par tout ça. J'avais fait ma révolution, sans rien demander à personne.
Quel est votre meilleur souvenir au cinéma, Jean-Pierre Calfon? Le meilleur rôle qu'on vous ait proposé, que vous avez incarné?
Oh, j'en ai beaucoup, vous savez, beaucoup, beaucoup. Ils ont tous éclaté ces rôles. Tous. Je pourrais dire Une étrange affaire de Pierre Garnier d'Affaires, je pourrais dire Godard, je pourrais dire Michel Cournot, je pourrais dire Romain Gary, je pourrais dire Rivette, je peux dire Chabrol, Truffaut.
Vous avez tourné un Macbeth au théâtre sous la direction de Roger Blanc.
Ouais.
Vous avez été un Louis XIV au cinéma sous la direction de Patricia Mazzi. Quel est le personnage que vous avez incarné qui vous poursuit encore aujourd'hui?
Je me débarrasse bien des rôles.
Des personnages, ouais.
Oui, je rentre chez moi le soir, je rentre pas habillé en Louis XIV et à cheval, vous voyez, et quand je joue Macbeth, j'ai pas besoin d'aller tuer un roi pour me sentir vivant. Par contre, ce qui est très beau, c'est de rentrer là-dedans. Shakespeare, j'aimerais bien rejouer un Shakespeare maintenant, vous voyez. Mais on en demande de moins en moins parce que ça demande beaucoup de production, quoi. À l'époque, Roger Blin, Emmanuel Riva a été ma Lady Macbeth. Ça c'est des expériences formidables. J'ai joué avec Jacques Dufilot sous la direction de George Wilson, le gardien Pinter. Vous voyez, c'est des choses inoubliables, ça. Inoubliables.
Aucune frustration, Jean-Pierre Calfont, vous l'éternel grand second rôle?
Éternel grand second rôle, non, j'ai commencé avec des premiers rôles, vous savez, chez Lelouch, Une fille et des fusils, c'est le premier rôle, avec Jacques Rivette, Louis Amour, c'est le premier rôle, Les Gauloises Bleues, c'est le premier rôle, mais c'est-à-dire que comme j'ai fait beaucoup de choses à droite à gauche, puis je me suis dévalorisé auprès des gens, parce qu'ils m'ont jugé, parce que je suis parti, comme vous disiez, dans toutes les directions, les substances, machin, comme ça et tout, les gens m'ont regardé un peu de travers, dans le métier. Mais ça, c'est de ma faute. J'en veux pas aux gens, mais c'est là qu'on m'a, on a commencé à me confier moins de choses importantes. J'aurais pu faire une grosse carrière d'acteur, je ne l'ai pas faite, parce que j'avais aussi ma musique à faire, parce que j'avais mes voyages, parce que j'avais... les femmes m'ont aussi beaucoup perturbé. M'ont aussi beaucoup occupé. Voilà. J'ai eu de la chance de rencontrer... de grands metteurs en scène, de grands réalisateurs de cinéma, des femmes merveilleuses, des femmes plus dures, impossibles des fois.
Je dis ça parce que Jean-Pierre Calfont, par exemple, dans vos mémoires, vous qui êtes dans le week-end de Jean-Luc Godard, vous prenez plus de temps pour nous dire à quel point vous avez été très touché que Godard vous présente après le week-end les Stones, plutôt que de nous raconter le film tourné avec Godard. Pour vous, c'est le rock, toujours le rock.
Ah, mais non, mais j'en parle aussi du film avec Godard. Quand je dis, par exemple, quand je raconte l'anecdote où il fait traverser une rivière à Jean-Yann sur une planche comme ça, et nous on est derrière, il lui demande de glisser dans l'eau au mois de mars ou avril, je sais plus quoi, une eau glacée qu'il veut pas, et que le Godard lui-même monte sur ce machin, il lui dit voilà, je vous montre comment c'est la scène, et il traverse la rivière sur cette planche comme ça, et au milieu de la rivière, Godard il glisse et il tombe dans l'eau jusqu'au cou. Et ben l'autre il a été obligé de le faire. Donc j'en parle de ça aussi. Je parle pas que. Ben bien sûr, mais c'est merveilleux. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi cette histoire avec les Rolling Stones? C'est parce que ils savaient que j'aimais bien les Stones. C'est pas mon groupe préféré d'ailleurs, c'est les Doors. Mais enfin bon, les Doors, il était mort, le Jim Morrison. Il faisait plus grand chose déjà à l'époque. Mais il m'a emmené voir ça et ils enregistrent Sympathy for the Devil. Un morceau quand même phare des Stones, et en plus le studio a brûlé quand ils enregistraient Sympathie pour le diable. Le diable est venu et a mis le feu au studio et on s'est retrouvé dans la rue. Donc ce sont des événements qui marquent, oui, quand même. J'ai échappé plusieurs fois au feu, et dans mes rôles et dans la vie.
On va terminer par les Doors, puisque vous aimez les Doors. Mais pourquoi vous aimez les Doors, Jean-Pierre Calfont?
Parce que c'est un groupe mythique, parce que l'âme de Jim Morrison et la musique des Doors, c'est quelque chose d'un peu, comment dirais-je, spirituel, quoi. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Comme il y avait une femme extraordinaire pour moi, que dernièrement, c'était Amy Winehouse, vous voyez. C'est des gens qui ont une âme qui passe à travers les clichés, quoi. Il n'y a pas de clichés, il y a une vérité, il y a une authenticité chez ces gens. C'est ce que j'aime chez Morrison.
Vous écoutez encore du rock, Jean-Pierre Calfon?
Bien sûr, mais je n'ai pas de production maintenant. Quand je chantais pas très bien, quand je faisais un peu n'importe quoi, j'ai trouvé des productions. Et maintenant que j'ai un super groupe et que j'ai de bonnes chansons et que je me débrouille bien vocalement, eh bien, il y a plus de production.
Voilà. Mais vous jouez sur scène.
Voilà.
Toujours avec un groupe. Et vous avez des projets cinéma, théâtre en ce moment?
J'ai des projets de court-métrage et de moyen-métrage. Et j'ai un ami avec lequel j'ai fait un court-métrage. Il en a écrit un autre et puis il écrit un long-métrage. Je viens d'en faire un avec une jeune fille de 25-26 ans, Zulma Rouge, qui s'appelle Fait Maison et qui va être très très bien, une sorte d'humour noir. Et j'espère, j'attends les choses.
Bah, la vie continue, quoi.
La vie continue.
Tout va bien, man, les souvenirs de Jean-Pierre Calfon, édité par l'Archipel. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Well, the clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night.